Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. À chacun son gabin. Salle Pleyel en 1954, Serge Reggiani lisait un texte de Jacques Prévert consacré à son gabin, celui de Prévert. Marcel Daliot, lui, lisait un message de Jean Renoir parlant de son gabin, le gabin de Renoir. Quel fut votre Jean Gabin? Mythe, acteur national, figure nationale. La preuve, un musée lui est dédié et un lieu de mémoire lui fut consacré le 15 mai 1997 sur France Culture.
Lieu de mémoire. Jean Gabin, une émission de Stéphane Bou, réalisée par Mireille Cros.
Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous guettez tous? Hein?
Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou?
Il a sauté par la fenêtre?
Qu'est-ce qui se passe?
Il est à sa fenêtre.
Mais qu'est-ce qui se passe, hein?
Je suis pas une bête curieuse, moi! Qu'est-ce que vous attendez? Ah, vous attendez que je saute? Ah! Un assassin reste intéressant, un assassin! Je suis un assassin! Mais oui, je suis un assassin! Mais les assassins, ça court les rues! Il y en a partout!
L'un des premiers films de Gabin que j'ai vu est sans doute après la Libération. Je suis né en 1935, donc je devais avoir 11 ou 12 ans après la Libération. J'habitais Neuilly-sur-Seine et au jardin de l'acclimatation, il y avait sous une tente un cinéma comme ça, comme il y avait des forains. C'est l'époque où il y avait encore des forains. Et ce forain avait la Bandera. Et nous avons vu plusieurs fois la Bandera. J'étais fasciné par Annabelle, là, d'ailleurs. Mais enfin, je devais m'identifier à Gabin, que j'ai croisé, si j'ose dire, puisque j'habitais Neuilly, comme je vous l'ai dit, et j'allais au lycée Pasteur tous les jours, bien entendu. Et il m'arrivait au coin du boulevard du Château et de la rue Édouard Nortier. Il y avait une très belle propriété qui était là. Et j'ai vu quelquefois un monsieur, je pensais d'une bonne quarantaine d'années, au pantalon de velours, chemise à carreaux, une casquette, des cheveux blancs et tout, et qui de temps en temps sortait ou passait le nez dehors dans la rue comme ça pour déposer des choses ou partir, des choses comme ça. Et moi je passais à pied ou en bicyclette et je me suis dit mais c'est monsieur Gabin, c'est Jean Gabin. Et j'allais au lycée comme ça en disant tiens, j'ai vu Jean Gabin.
Quoi François? Quel est François? Il y en a plus de François, je connais pas, il y en a plus de François nulle part. Alors laissez-moi, foutez-moi la paix, allez-vous-en. Foutez-moi la paix!
François! On te connaît! T'es un bon gars! Ne t'obstine pas!
On parlera pour toi! Allez, descends! Ça sert à rien!
Je suis un acteur national, aimait à répéter Gabin. C'est que quelque chose d'essentiel de la France s'exprime à travers lui. Son personnage, dans la centaine de films où il figure, raconte 50 ans de l'histoire du pays, du début des années 30 à la présidence de Giscard. Il a fait la chronique du Front populaire, des années de guerre, des 30 glorieuses. Il a changé, vieilli, traversé toutes les classes sociales, mais il est toujours resté un point de référence pour le public. Gabin renvoie aux Français une image de ce qu'ils sont, une image grossissante, bien sûr, valorisante et glorieuse. Alors les Français se reconnaissent à travers lui. Il fait partie de la famille. On revoit les films de Gabin comme on feuillette son album de photos. Chacun a son souvenir. Et il n'est pas étonnant qu'existe un musée Jean Gabin. On peut y visiter la star comme on interroge une mémoire. Pourtant, qu'y a-t-il de commun entre le déserteur de Quai des Brumes et le baron des grandes familles, entre le héros tragique des films de la première période et la figure du patriarche qui commence à se dessiner à la fin des années 50 ?
Ça, c'est Bolo, mon ours quand j'étais petite. Je l'ai toujours gardé avec moi.
Il manque une oreille, mais il a une bonne tête.
Oui, il vous ressemble.
C'est vrai qu'il vous ressemble à un petit air de famille.
Vous voyez, il est comme vous. Il a un œil gai et l'autre qui est un tout petit peu triste.
C'est vrai, t'as raison. Il a un œil gai et un autre triste. Comment que t'as vu ça?
parce que je vous ai regardé.
Ça s'arrête derrière madame, avec l'imperméable fer. Voilà,
c'est ça. Il a perdu sa femme, lui.
Donc, si vous voulez bien venir un peu par ici, comme il a mis ça. Donc, vous êtes à Mérial et au musée Jean Gabin. Alors, pourquoi avons-nous créé un musée Jean Gabin à Mérial? Le père de Jean Gabin était déjà dans le spectacle. Il était meneur de revue à La Cigale, qui est un cabaret qui se trouvait pas très loin de la gare du Nord. Donc, il fallait qu'il existe un train qui parte de la gare du Nord assez tard pour lui permettre de rentrer chez lui. Un jour, il a pris le train, il a suivi la ligne. Il y avait quelque chose à vendre à Mériel qui était, dirons-nous, dans ce qu'il recherchait. Et voilà comment la famille Montcorger est arrivée à Mériel. Donc, si vous voulez bien me suivre, nous allons commencer la visite. Donc là, nous sommes dans le musée et vous allez découvrir l'affiche de la bête humaine. Cette affiche qui représente Jean Gabin, conducteur de locomotive, rêve qu'il a réalisé un petit peu, puisque pendant ce tournage, on lui a permis de conduire la locomotive sur quelques kilomètres. C'est un rêve qu'il avait depuis son enfance. En effet, la maison que vous verrez tout à l'heure donne sur la grande rue et sur la gare. C'est une maison toute en longueur et sa chambre, vous le voyez là représenté à la fenêtre de sa chambre, donnait sur la gare. Et Jean Gabin voyait les trains passer et il s'imaginait que ces trains allaient très très loin, alors que finalement ils s'arrêtaient 4 km plus loin, à la gare de Valmondois. Et quand Jean Gabin a tourné ce film, il a noué de très très bonnes relations avec les cheminots du Havre, qui lui ont offert cette burette d'huile que vous voyez.
Comment Gabin arrive-t-il à s'imposer très vite, d'une manière assez évidente, comme la grande figure mythique du cinéma français, Ginette Vincendo?
Je crois que la faculté de Gabin d'apparaître comme une figure mythique nationale est liée à plusieurs choses. D'une part, c'est un acteur qui est apparu dans un cinéma réaliste de façon prépondérante, c'est-à-dire qu'il a réussi à exprimer des représentations d'un certain type d'hommes vus comme réalistes, vus comme crédibles, plausibles, même si leur destin est toujours exceptionnel. C'est une figure qui s'insère dans un milieu reconnaissable, dans un cinéma, le cinéma français, qui est de manière dominante un cinéma réaliste. Et il est présenté comme authentique, surtout. Donc, il se définit comme un personnage à l'authenticité qui est lié à son jeu d'acteur, qui est lié au rôle qu'il joue, qui est lié à l'utilisation qu'il fait de sa voix, de son corps même, que ce soit le Gabin jeune des années 30 ou le Gabin patriarche des années 50 aux années 70. Et pour moi, vient de là sa faculté à apparaître comme un mythe national, c'est-à-dire qu'il est à la fois le type ordinaire, l'homme de la rue, l'ouvrier, surtout dans les années 30, le prolétaire, et en même temps, avec un destin, entre guillemets, tragique, qui va le sortir de ce milieu, un personnage qui va avoir une destinée tout à fait exceptionnelle.
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord l'acteur, d'une part, qui est un acteur qui finalement, j'allais dire, n'est pas un acteur français. Plus exactement, à l'époque, on est extrêmement féru de cinéma américain. On ne jure que par James Cagney, par Spencer Tracy, par Gary Cooper. Et Gabin, il joue comme ces gens-là. Plus exactement, il ne joue pas Gabin. Il est lui-même. Et Renoir disait que c'est extraordinaire acteur de Gabin, c'est un acteur qui murmure et qui chuchote. Et alors c'est vrai que c'est un acteur qu'on recherche terriblement à ce moment-là, parce qu'il apporte une vérité que les autres n'apportent pas. Et il se trouve effectivement qu'à l'époque, c'est une figure emblématique du front populaire. C'est-à-dire que c'est vrai que Gabin a un côté fils du peuple. Enfin, je veux dire, Gabin a un côté Thorez. Et François Giroud l'explique très bien. Il dit, Gabin, c'est quelque sorte de Thorez sans la dialectique, ou le contraire, si l'on veut, si l'on parle de Thorez. Et que même jusqu'à des analystes du PCF l'ont fait remarquer, même jusqu'à Georges Marchais, Gabin représente l'image de l'ouvrier, du fils du peuple. Hein. Bon, c'est une image qui demande à être rectifiée. Mais c'est aussi l'image que retient les gens et que retiennent finalement les metteurs en scène, puisqu'il incarne une idée comme ça du prolétariat. Il se trouve que nous sommes à l'époque, nous sortons du Front Populaire et de cette grande illusion lyrique qu'a été le Front Populaire.
C'est drôle ce nom que vous lui donnez, la Luison.
Ah, bah quand on aime quelqu'un, on n'a pas idée de l'appeler avec un numéro, hein?
Je peux monter?
Vous allez vous salir?
Ah, c'est vrai.
Attendez. Faites attention, hein, parce que vous savez, ici, c'est plein d'huile et de charbon.
Oh, c'est chaud.
Ah, bah dites donc, elle en mange du charbon.
Oh, moi, je m'y perdrai dans tout ça.
Oh, vous savez, c'est une question d'habitude. Elle est belle, ma machine, hein. Vous savez que c'est peut-être la plus belle machine du réseau, la meilleure.
Vous l'aimez, votre machine?
On a vu tellement de choses ensemble.
Tellement de choses?
Bah oui, quoi, sur la ligne, on voit tout, on connaît tout.
Avec cette vitesse?
Bien sûr. Maintenant, on suit très bien les saisons. Avec les feuilles qui poussent aux arbres, puis qui grandissent, puis qui tombent. Mais dans les champs, les petits lapins. Vous savez, on voit avec leurs petites oreilles là, qui poivent dans les friches. Ils nous regardent passer, ils n'ont pas peur. Ils savent très bien qu'on leur fera pas de mal.
C'est drôle. Nous, quand on voyage et qu'on regarde par les portières, on ne voit rien, tout ça.
Parce que vous ne savez peut-être pas regarder.
Le mythe de Gabin a pris naissance dans les années 30, à une époque où le populisme dans les arts, dans la littérature en particulier, mais aussi dans la photographie, était tout à fait dominant. C'est un genre littéraire issu du roman classique du 19e siècle, mais qui a eu des manifestations assez précises dans les années 20 et les années 30, et qui était un genre qui désirait mettre en scène le peuple. On pourrait presque dire l'ouvrier était à la mode à l'époque, c'est-à-dire une représentation qui fait de l'ouvrier un spectacle qui est fascinant, d'une part dans son aspect ordinaire, mais aussi qui est fascinant dans son aspect qui est vu comme dangereux, en quelque sorte exotique, et que la littérature française, et puis après le cinéma, a repris cette formule qui, on peut dire, revient un petit peu à une forme de voyeurisme social, c'est-à-dire un désir de voir le peuple. Et Gabin est un acteur qui a su prendre en charge ce type de personnage. Les lieux dans lesquels on voit Gabin sont toujours des lieux très ordinaires en apparence, des cafés, des cours d'immeubles, les escaliers, des chambres banales, enfin en quelque sorte, des immeubles parisiens que l'on peut reconnaître facilement. Et je crois que la puissance du mythe Gabin vient aussi de cela, c'est-à-dire que lorsqu'on voit ces films maintenant, on peut épuiser tout un patrimoine sur la culture française d'une certaine époque. Ce sont des films donc, qui mettent en scène un Paris qui lui-même est devenu presque mythique maintenant.
André Brunelin, vous avez été l'ami de Gabin, vous avez écrit sa biographie, où l'on voit bien d'ailleurs comment Gabin a construit sa carrière, comment il peut être considéré comme l'auteur de son personnage, presque au même titre que Renoir, Carnet ou Devivier. Et ce qui est frappant, c'est que l'essentiel de son mythe s'invoque très tôt, et en très peu de temps.
Il a débuté en 1930, en 1934, quatre ans plus tard, il était pratiquement la première vedette européenne avec Pepe el Moko, la Bandera, etc. Bon, il y a eu ce que moi j'ai appelé les cinq glorieuses, les cinq années glorieuses de Gabin, de 34 à 39, où pas un de ces films ne s'inscrit pas aujourd'hui comme un des plus grands classiques de l'histoire du cinéma français. Je veux dire, il n'a tourné que des chefs-d'œuvre à cette époque-là, et des films qu'il voulait, dont certains d'entre eux, y compris La Grande Illusion, ne se seraient jamais faits sans lui. Le Quai des Brumes, c'est lui qui avait acheté les droits du roman de Macorlan, il voulait faire ce film. C'est lui qui avait acheté les droits du roman de Macorlan, également La Bandera, qu'il a voulu faire. Je veux dire, un film comme Le Jour se lève ne se serait pas fait sans le soutien de Gabin. C'était pas des films que les producteurs voulaient faire facilement, vous savez, c'était pas, a priori, c'était pas les films qui marchaient le plus à cette époque. Le Jour se lève n'a pas été un énorme succès. Quai des Brumes, oui, La Grande Illusion, énorme. Mais aujourd'hui, La Grande Illusion est considérée comme un des plus grands films du monde. Sans Gabin, Renoir l'a écrit, il l'a dit, sans Gabin, il n'aurait jamais pu faire La Grande Illusion sans le soutien de Gabin.
Et en 1938, c'est le fameux Quai des Brumes avec Michel Morgan. Et vous avez de nombreux étrangers qui viennent visiter le musée. Et souvent, la seule phrase qu'ils connaissent en français, c'est d'être posé comme ça.
C'est
un
classique, ça.
Oui, c'est un classique. Vous trouverez les affiches de Gueule d'amour de Pepe el Moko avec Mireille Balin. Et vous allez découvrir aussi son accordéon qu'il avait acheté sur les conseils de Pierre Macorlan. Vous allez le découvrir là sur cette photo. Il est en compagnie de Jacques Prévert qui a composé le poème à Jean Gabin, dont quelques vers sont gravés sur le buste qui se trouve dehors. Le buste a été fait par Jean Marais. Alors après, nous découvrons la veste de la traversée de Paris. Film avec Louis de Funès et Bourville. Si vous voulez bien venir par ici un petit peu. Avec Simone Signoret pendant le tournage du Chat. Avec son biographe André Brunelin. Là, c'est avec Alain Delon. Et à la fin, vous allez découvrir l'affiche de l'affaire Dominici. Alors, il y a une anecdote qui circule à propos de ce film. Quand les habitants du village, puisque les extérieurs ont été tournés près du village où habitait Dominici, les habitants ont vu Gabin arriver tel qu'il est là sur les photos. Les habitants ont dit, c'est pas possible, il est revenu.
Il est revenu.
Et tout le monde a pensé, bon,
c'est lui. Hein.
C'est vrai que Gabin, là, est vraiment...
C'est là qu'il était le mieux, d'ailleurs. Dans ses rôles quand il était vieux.
Ouais, c'est vrai.
Du moins, moi, je le préfère, là.
Ouais.
C'est formidable, là. Je l'apporte, quoi.
Embrasse-moi. Vite, on est pressé. Vite.
Oh, Jean. Jean, non, c'est pas possible. Tu peux pas me laisser toute seule. Tu peux pas mourir. Non, je t'aime tellement. Non. Jean!
Bazin disait que Gabin, c'est Édipe en casquette Renoir et Carnet. On poussait le personnage de Gabin vers la tragédie. Et là, on rejoint le pessimisme poétique, le pessimisme tragique de l'époque. Parce que l'illusion du Front populaire a duré peut-être 18 mois. En 38, par exemple, quand la Marseillaise de Renoir sort et que c'est un film fait pour le peuple et par le Front populaire est mort. Et à ce moment-là, les menaces de la guerre sont extrêmement présentes. Et c'est pas pour rien que dans Quai des Brumes, il est déserteur.
finalement, est-ce qu'il ne faut pas s'étonner, Ginette Vincendo, à propos de Gabin, s'étonner que les Français se soient identifiés à lui, compte tenu de ce fait qu'il impose une image sombre, pessimiste? Alors bien sûr, il a été le séducteur, et on imagine que c'est très important, mais quand même, quand on regarde ces grands films des années 30, cela se passe toujours mal, hein. Il se suicide ou on le tue à la fin du film. Alors comment on peut être à la fois un mythe national et une figure de la défaite?
Je prendrais deux films qui pour moi sont emblématiques. Un film des années 30 qui est La Bête humaine et un film de l'après-guerre qui est Le Président. Et il me semble que ces deux films qui en apparence sont très très différents montrent la même structure et aident à comprendre pourquoi Gabin est devenu un mythe national. C'est-à-dire que dans ces deux films, comme dans beaucoup d'autres, il joue un rôle de personnage battu par la vie. Un personnage qui connaît la défaite. Dans Le Président, il est battu dans ses bagarres politiques. Dans La Bête humaine, il est battu par son hérédité qu'il conduit au crime. En quelque sorte, il est mu par des forces qu'il ne contrôle pas. Donc, on a ce personnage qui fait figure d'échec. Mais la force de son mythe va être de tourner cet échec en une figure de victoire. Alors, on a pu le voir comme en correspondance avec les mouvements sociaux de l'époque. Et il est vrai que c'est une interprétation qui se défend, mais je dirais qu'elle reste en quelque sorte superficielle. Et que le côté français de Gabin vient de cette acceptation de la défaite. C'est un mythe qui est pessimiste en quelque sorte, mais en même temps qui a beaucoup d'éclat, qui a beaucoup de charisme, et qui donc attire le spectateur. On a réussi à faire d'un personnage qui fait figure d'échec, on réussit à en faire un héros. Et je crois que c'est quelque chose qui est très français. C'est vrai que si on le compare aux héros du cinéma américain, que ce soit dans les années 30 ou après la guerre, on trouve dans le cinéma américain un désir de montrer une trajectoire toujours optimiste, un désir de montrer un héros qui réussit à vaincre l'opposition. Et un héros qui connaît la rédemption, parce que le cinéma américain, c'est un cinéma beaucoup plus moralisateur de façon classique. Dans le cinéma français, on ne s'attache pas à l'idée de rédemption. C'est souvent un cinéma qui est assez amoral, finalement. Et la même importance n'est pas donnée à l'idée de victoire, à l'idée du héros qui réussit à vaincre les éléments, à se proposer en héros positif. Et il me semble que c'est l'aspect français de Gabin, et d'avoir réussi à tourner un héros en quelque sorte assez négatif, pessimiste, qui est souvent vaincu par les éléments, que ce soit par des figures patriarcales dans ces films des années 30, par l'âge, par toutes sortes de figures qui s'opposent à lui dans ces films. Mais en même temps, c'est lui qui tient le centre du film, c'est lui qui tient le centre, qui est au centre du cadre, c'est lui qui condense en fait toutes les valeurs du film. C'est intéressant d'ailleurs que ce sont les films où Gabin ne fait plus figure d'échec qui ont été les moins appréciés par les critiques de cinéma dans l'ensemble, où l'on a vu en fait une trahison de son mythe. C'est-à-dire que c'est une façon de dire le vrai mythe de Gabin, enfin pour beaucoup, c'est un mythe de l'échec. Mais un échec glorieux, rédempteur.
Là, qu'est-ce que t'as ?
Rien.
Oh, tu m'as fait peur. Oh, aime-moi bien, mon chéri, parce que tu sais, il n'y a que ton amour qui puisse me faire oublier.
Mais je t'aime, Séverine, je t'aime de tout mon cœur, je te jure. N'aie pas peur. Toi aussi, aime-moi bien. Aime-moi de toutes tes forces, j'en ai tellement besoin.
Tu as des chagrins ? Tu l'es, moi.
Oh non, pas les chagrins, des choses comme ça qui n'existent pas. Des coups de tristesse qui me rendent terriblement malheureuse sans que je puisse en parler.
Oh. Oh, si j'étais libre, si mon mari n'était pas là, est-ce que nous oublierions vite?
aussi au cinéma pour rêver. Et bien évidemment, j'imagine que les hommes d'avant-guerre ne pouvaient que s'identifier à Gabin quand ils voyaient, je sais pas, Viviane Romance, Mireille Balin, Annabella, Michel Morgan passer dans ses bras, danser avec elle, les embrasser, etc. De même, j'imagine que les jeunes spectatrices rêvaient de Gabin qui était très beau, hein, qui était un très très bel homme et tout. Et bon, bah, c'est un phénomène humain très très connu. On rêve, hein, on rêve, et c'est effectivement l'homme idéal.
Pourtant, ça se passe pas toujours très bien entre Gabin et les femmes qu'il croise dans les films.
Oui, non, il y a effectivement Mireille Balin l'envoie littéralement à la mort et tout, etc. Mais là aussi, alors là, ça relève d'un phénomène classique de masochisme également. Le vertige du suicide, les pulsions de mort, tout ça existe, et c'est vrai que Gabin les incarne également très fortement.
Les rapports de Gabin avec les femmes sont très compliqués. À la fois dans ses rôles des années 30 et dans ses rôles d'après-guerre. Alors, d'une part, ce que je vois comme très important, c'est le fait que dans les films des années 30, les personnages de Gabin fonctionnent par rapport aux femmes dans une figure du double. C'est-à-dire que, très souvent, le personnage féminin est présenté comme un double symbolique de son personnage à lui. Bon, on a le cas de figure très connue, c'est celui du Jour se lève, où Gabin joue le rôle de François, et la jeune femme dont il est amoureux s'appelle Françoise. Et le film insiste bien sur le fait qu'ils sont presque jumeaux. La femme, les films de Gabin de cette époque, est donc plus une espèce de projection, un double d'un aspect symbolique, bien sûr, de son personnage à lui. Et ceci est possible parce que son personnage, à lui, est, à mon avis, un personnage qui est à la fois masculin, bon, c'est toujours un personnage très viril, dans son corps, dans sa voix, dans ses actions, mais en même temps, qui présente toujours des caractéristiques que l'on associe traditionnellement à la féminité. Par exemple, c'est toujours un personnage vulnérable, c'est toujours un personnage très tendre, et c'est un personnage marqué par l'échec, par la faiblesse. Souvent, on le voit comme un personnage qui est incapable d'agir, qui est bloqué, en quelque sorte. Il y a toujours quelque chose qui le retient en arrière. Alors donc, son personnage étant à la fois masculin et féminin, les femmes sont presque redondantes dans les récits de Gabin, et si bien qu'on peut comprendre que, bien que le récit, évidemment, le présente toujours comme désirant un personnage féminin, les rapports entre lui et les personnages féminins dérapent toujours et ne vont pas s'accomplir finalement. Dans les films d'après-guerre, Gabin, évidemment, change. Et bon, il est plus âgé, son physique a changé. Et ce qui se passe, c'est qu'il occupe très tôt, vers la fin des années 40 déjà, le rôle du père. Et cette dualité qu'il y a en lui entre un aspect très viril, très traditionnellement masculin, qui n'est pas mis en doute, et une vulnérabilité, entre guillemets, féminine, se retrouve mais dans la figure du père. Et moi, je verrais un film comme La Marie du Port, un film de 49, de Marcel Carné, où Gabin joue un rôle déjà de patriarche. Et il reprend à ce moment-là, avec des variations bien sûr, mais il reprend ce rôle du père que l'on avait dans les années 30, tenu par des acteurs comme Rému, par exemple, et qui était déjà un personnage de figure patriarcale, mais toujours blessé, toujours vulnérable aussi. Et Gabin reprend tout à fait ce rôle, et cela se traduit dans ses films des années 50, 60 et 70, par des rôles de père qui sont ambigus, c'est-à-dire que c'est un père qui a une douceur, une tendresse toute féminine qui s'occupe soit de ses enfants, par exemple dans le film comme Rue des Prairies. C'est un père, il a trois enfants et c'est lui qui s'en occupe, sa femme est morte. D'ailleurs, souvent, ces récits ont tendance à faire disparaître les femmes d'âge mûr. Elles sont déjà mortes ou bien elles sont très marginales. Et cela permet donc à Gabin de jouer le rôle du père, dans ce qu'il a de plus classique, le patriarche, et en même temps de la mère. Et puis, cette figure de père est tout de même très ambiguë parce que souvent, enfin en tout cas dans les films des années 50, c'est un père qui est aussi un père séducteur. Et donc, on le voit par exemple dans En cas de malheur, film avec Brigitte Bardot, on a ce cas. Donc, on retrouve toujours cette dualité masculin-féminin, à mon avis, qui, je crois, aide à comprendre pourquoi il a atteint un mythe universel dans la culture française, puisqu'il fait figure de héros parfait, complet, à la fois homme et femme, père et mère.
C'est vrai ? Je suis contente. Reste avec moi. Comme hier.
Non. Hier, c'était pour veiller sur toi. Aujourd'hui, ça serait pour te surveiller. Et ça, je n'y tiens pas du tout.
Oh non, pas pour ça, André. Tu verras. Enferme-moi, tiens. À clé. Oh, je bougerai pas, je te le jure. Viens. On va tout recommencer.
...1954, à l'occasion d'une soirée organisée en l'honneur de Jean Gabin.
C'est dans le hall de la salle Pleyel, tandis que toute la foule continue d'entourer Jean Gabin, que j'ai pu avoir juste avant leur départ Serge Reggiani d'Alio au micro. Serge Reggiani, je voudrais vous demander tout simplement de nous lire le message qu'a envoyé Jacques Prévert à Jean Gabin.
Oui, c'est plus un poème qu'un message, d'ailleurs.
De toute façon, c'est du Prévert.
À Jean Gabin. Le regard toujours bleu et encore enfantin sourit. Les lèvres minces accusent les blessures de la vie. On ne meurt qu'une fois, dit-on. On meurt souvent, on meurt tout le temps, répond Jean Gabin sur l'écran. Jean Gabin, acteur tragique de Paris, gentleman du cinéma élisabétain, dans la périphérie du film quotidien. Le cinéma n'a jamais été muet. Il avait tant de choses à dire primitivement qu'il les disait en se taisant internationalement. Plus tard, on le paya pour parler, il ne put faire autrement. Jean Gabin est l'un de ceux qui l'ont le mieux aidé à dire ses pauvres rêves fastueux et vivants. La voix de Jean Gabin est vraie, c'est la voix de son regard, la voix des gestes de ses mains, tout marche ensemble. Jean Gabin est synchrone de la tête aux pieds.
C'est d'autant plus gentil à Serge Reggiani d'avoir lu ce poème de Prévert que je vous assure qu'il y a un brouhaha extraordinaire dans cette salle Pleyel. Eh bien maintenant, Dalio, vous aussi, je crois que vous aviez un joli message à nous transmettre.
Oui, j'ai un message de Jean Renoir, mais quoi, vous voulez que je vous le lise ?
Oui, dites-le-nous.
Alors, je peux vous le lire, parce que je l'ai là devant moi. Jean est un acteur unique. Il possède le don, il possède la grâce, au sens religieux du mot, exactement comme Anna Magnani. Il a dans son physique, dans son jeu, une force étonnante, une puissance de moyens d'expression qui lui permettent de jouer facile presque toujours en dedans. Moyen énorme donc, dont il ne met seulement qu'une petite partie dans l'action. Et c'est ce qui, à mon sens, caractérise sa façon de jouer réel, de jouer vrai. Il n'y a pas...
Attendez,
je crois qu'il était sensible à tout ce qui pouvait l'identifier à un monde français.
C'était le français, quoi. Gabin, ah, c'est oui, le français.
Oui,
alors.
Oui, tout à fait. C'est vrai, on a parlé du mythe Gabin. Le mythe Gabin, il ne savait pas ce que c'était, moi non plus. J'ai jamais très bien compris pourquoi. Sinon que, c'est vrai que dans toute sa période d'avant-guerre, il s'est identifié à un homme de révolte contre les injustices, contre... Il campait pas toujours un ouvrier, mais les rares fois où il a campé un ouvrier, il lui a donné des lettres de noblesse à cet ouvrier. L'ouvrier du jour se lève, c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai connu des ouvriers qui, au moment de mon livre, m'ont dit, des vieux ouvriers qui considéraient Gabin comme un vieux copain, qui m'ont dit, il a donné sa dignité au monde ouvrier. Et ça, c'était très important. Mais ça, je ne suis pas sûr que lui-même en était conscient. Hein. Mais je sais que, par exemple, quand il, dans Le Jour se lève, ayant joué un ouvrier, une souffleur de verre, il avait pris soin de donner une grande élégance à ce personnage. Très belle casquette, un pull, il n'avait pas de cravate, mais pull, etc. À partir du moment où il jouait un ouvrier, il voulait lui donner une formidable dignité, parce qu'il venait de là. J'en venais du monde ouvrier. Alors donc, il s'est identifié à ce monde-là, disons en gros aussi au monde du Front Populaire, hein, des congés payés avant la guerre. Et puis, c'est vrai que ensuite, quand il est redevenu, à partir de 56, 57, 58, c'est le gaullisme, c'est le retour de De Gaulle. Il s'est jamais identifié à la France résistante, par exemple. Il n'était pas gaulliste. Bien qu'il s'est engagé dans les forces françaises libres, c'est pas pour De Gaulle qu'il s'est engagé dans les forces françaises libres. C'était pour dire, je vais faire quelque chose pour quand je rentrerai en France, dans la France libérée, je puisse serrer la main des copains qui sont restés là sans avoir honte. Je suis pas un planqué. Voilà. Mais ensuite, sans être gaulliste, du tout même, il s'est identifié aux fameux 30 glorieuses. De la France qui ressort de la guerre, qui s'enrichit, la France de De Gaulle, la France de Pompidou, etc. Et là, il a symbolisé à travers différents personnages un peu cette France qui va être secouée en 68, bien sûr. Alors, pour beaucoup de gens, il s'est identifié. Bon, il a commencé à jouer, parce que son âge était là, il a commencé à jouer d'autres personnages. Il a eu aussi envie de jouer d'autres personnages. Bon, il a joué les banquiers. Des grandes familles, il a joué des présidents, il s'est fait une tête de Clémenceau dans Le Président, etc. Alors voyez-vous, il a eu des différentes périodes avant la guerre, un peu après la guerre, où il y a une identification à, je dirais, à un Français. Ce Français, il a évolué, il est plus le Français populaire des milieux populaires d'avant-guerre. Il est devenu un Français qui est arrivé. Il y a un petit côté poujadiste dans certains de ses personnages également. Mais je crois que les gens ont continué de l'identifier à quelque chose qui est profondément français. Je crois vraiment que ça a été l'acteur le plus profondément français.
Cette soirée, Jean Gabin, a été extrêmement émouvante pour tous ceux qui y assistaient. Elle a dû être aussi très émouvante pour vous, car ça a dû vous faire revivre toute votre carrière, qui est merveilleuse du reste.
Ben oui, oui.
Je voudrais que vous nous disiez ce que vous avez ressenti quand vous avez vu tous ces films. Est-ce que vous avez revu des amis, en quelque sorte?
Des amis, ben j'ai vu...
Dans les films comme dans ceux qui les ont réalisés.
Ben les amis qui ont tourné avec moi, oui. Ben oui.
Est-ce que je peux vous demander, parmi tous ces films, ceux qui ont le plus d'importance pour vous, non pas autant que qualité, mais en tant que sentimentalement?
Bon, tous pareils. Tout ce que vous avez vu ce soir, moi quand je fais un film, je le fais bien.
Oui, mais ça, nous le savons.
J'essaye de le bien faire, c'est pas pareil, j'essaye de le bien faire.
Nous le savons, mais nous avons eu presque l'impression que tous vos amis étaient entrés dans la danse pour venir vous dire bonsoir sur l'écran.
Bon, j'étais très touché parce que c'était émouvant tout de même pour un acteur de revoir des choses qu'on a fait depuis des années. Alors, d'abord, on se trouve un peu plus jeune, puis après un peu plus mûr. Et puis après, on voit une certaine évolution.
Vous voyez l'évolution de votre travail? Vous pouvez
Non, je vois surtout l'évolution de mon physique.
Ah, vous voyez l'évolution?
Ah oui. Ah oui, parce que ce soir, j'ai eu l'impression de voir, je dirais, pour mon fils, mais enfin presque, quoi, des choses que j'ai faites il y a plus de 20 ans, vous savez, quand même, on change en 20 ans. Hein.
Oui, on change un peu, mais nous n'avons pas l'impression que vous êtes
votre gentil.
Fils, en tout cas.
C'est gentil, mais moi, je change. Moi, j'ai la nette impression que j'ai changé.
Voilà. Alors, au fond, ces 25 ans représentent pour vous tout de même une consécration. En tout cas, pour nous, c'est la consécration d'une première partie de la carrière de Jean Gabin.
Bon, ben, première partie, vous êtes gentil, parce que, alors, si on recommence dans 25 ans, alors là, hein? Thank you.
Claude Gotteur, vous êtes l'un des premiers historiens du cinéma, il y a 20 ans, à avoir écrit une longue étude critique sur le personnage Gabin, sur le mythe qu'il représente. Pourtant, je crois qu'à l'époque, vous n'aviez pas forcément une bonne image de lui.
En 75, il est vrai que Gabin, qui n'est plus tout à fait le numéro un qu'il a été, mais qui se maintient toujours, disons, dans le peloton de tête, si l'on veut, du cinéma français, il est évident que nous qui étions très admiratifs des films de Gabin d'avant-guerre, et même de l'après-guerre, jusqu'à French Cancan, bien évidemment, même jusqu'à En cas de malheur et tout, nous sommes absolument navrés de le voir tourner un certain nombre de films qui nous hérissent profondément, et il est vrai qu'on a tendance à être assez dur avec lui, à ne pas lui pardonner. Il y a une chose qui est frappante quand on regarde aujourd'hui la presse de gauche à la mort de Gabin, est terrible avec lui. Enfin, c'est vraiment l'ennemi de classe, c'est l'homme qui a trahi. Il y a une lecture manichéenne, c'est vrai, on le voit maintenant, une lecture un peu simpliste, mais c'était l'air du temps. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à ce moment-là à penser que Gabin est un patriarche insupportable, mais un peu, si vous voulez, je crois qu'il a subi le sort, paradoxalement, de Gaulle, qui est revenu aux affaires en 58. Et puis il y a eu mai 68, qui est quand même une révolte contre le père, contre le vieux, on en a assez et tout, et on s'en débarrasse. Donc Gabin, dans un tout autre style et pour de tout autre raison, incarnait un peu le père contre lequel on se révoltait.
Moi, j'en ai plein le dos. Et cette fois-ci, je me suis pas gêné. Je lui ai dit ce que je pensais de ses méthodes. Je lui ai dit mon opinion sur le journal. Et par la même occasion, je lui ai dit que...
Tu lui as dit quoi? Tu lui as dit quoi?
Comme je suppose que vous venez d'écouter.
C'est même la deuxième fois de la journée. Car cet après-midi aussi, je t'ai écouté. Gentiment, sagement, parce que nous n'étions pas seuls.
Ne me dites pas que la chaume vous gênait.
Il est toujours gênant devant les étrangers de traiter son fils de morveux. Oui, de morveux.
Je ne vous permets pas!
Tu n'as rien à me permettre. Ni à mon journal, ni chez moi. Pour permettre, il faut pouvoir interdire. Il faut être le patron. Et le patron, c'est moi. N'oublie pas que tu es le fichu de l'air, à quoi c'est tout. Tout ce que tu as été dans ton berceau et tout ce que tu es, c'est moi qui l'ai payé. Car j'ai tout payé. Y compris ta sortie de Polytechnique, ta Légion d'honneur et ta femme.
Mon père, je vous en prie.
Quoi, mon père? Je sais que vous l'aimez et qu'il vous aime, mais est-ce que Jacqueline de Maniac Laval aurait épousé le fils d'un balayeur? Hein? Non, alors. C'est comme tailleur, je ne dis pas que tu ne l'as pas faite.
C'est vrai?
Oui, mais tu l'as faite dans un escadron de fils d'archevêque. Avec des bottes payées par papa.
Ah non, ça suffit! Ma blessure aussi, c'est peut-être vous qui l'avez payée. Il est vrai que vous auriez sans doute été prêt à le faire. En 44, un héros dans la famille, c'était pas du luxe.
Un héros? Mais il y croit, ma parole! Mais il y croit! Dis-toi bien que si j'avais eu besoin d'un héros, comme tu le laisses entendre, j'en aurais fabriqué un qui soit plus représentatif. Un de ceux qui flatte les familles et qui n'emmerde personne. Un faux.
Vous ne trouvez pas cette forme de cynisme un peu écœurante?
Quand mon fils vous disait tout à l'heure si plaisamment que j'étais un homme usé, un sénile, vous aviez le cœur mieux accroché, hein? Bonsoir.
Dans la mesure, si vous voulez, où il a été l'emblème du Front populaire avant-guerre, il est bien évident qu'avec les films de cette dernière période, hein, il devient l'emblème d'un certain populisme ou d'un certain poujadisme. Il y a un film qui est très étonnant, c'est Le Président. Qu'on le veuille ou non, Le Président est quand même un monument d'anti-parlementarisme et il se trouve qu'il sort en 1960. Le film n'est pas ne vient pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il a été conçu comme ça. Gabin, je crois, avait une formule très forte dans la vie, c'est-à-dire qu'il, c'est vrai qu'il détestait les hommes politiques et surtout les politiciens, mais enfin il ne sait pas le détail. Et il avait une formule radicale, il les rejetait tous, quels qu'ils soient, de quelque bord qu'ils soient, en disant tous des Macs. Gabin, là aussi, ne fait qu'exprimer une espèce de ras-le-bol qui est un serpent de mer en France. Enfin, je veux dire, cet anti-parlementarisme diffus qui vient d'ailleurs déjà de l'avant-guerre, qui va se poursuivre et qu'on entend encore aujourd'hui. Je revoyais le Durififi à Paname à la télévision, qui est censé être un polar, où il joue le rôle de Polo Lediam. Il a 60 carats dans le film, enfin 60 ans bien entendu. Et J'ai relevé deux répliques que je trouve étonnantes et qu'on voit bien que c'est Gabin, je dirais presque, qui les a dictées aux dialoguistes. Et en l'occurrence, c'était Alphonse Boudard. Il dit « Mon dab ne voyait que par Jaurès ». Enfin, il fait le rôle d'un vieux gangster et tout, qui là aussi, qui on pourrait dire, est devenu gangster parce que son dab ne voyait que par Jaurès et que Jaurès est fini. Et alors, à un moment, il est racketté et alors il envoie promener les gens qui veulent le racketter en disant « Pour le racket, je ne reçois que les agents de Monsieur Giscard d'Estaing ». C'est un film qui est vraiment daté. Et bon, ce sont pas des répliques innocentes. La Horse, par exemple, qui est un de ses derniers films, où il y a là aussi cette réplique étonnante, qui est de Pascal Jardin, cette fois, et lui dit à un moment, mais enfin, vous êtes dépassé, vous êtes aveugle, vous n'avez pas vu que le monde a changé, le monde change. Et Gabin répond, le monde change peut-être, moi je ne change pas. Et c'est vrai que là, c'est le rock qui s'oppose absolument à toute évolution.
Paul Vallon, vous êtes donc le responsable conservateur du musée Gabin.
Conservateur, oui.
Et alors les gens qui viennent voir le musée, c'est...
Alors les gens qui viennent voir le musée, vous avez, bon, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, des groupes de personnes, dirons-nous, du troisième âge. Il y a aussi des très jeunes qui viennent. Ah bon ? Je ne m'attendais pas à voir des gens aussi jeunes fans de Gabin. Des jeunes de 20 ans, 18-20 ans qui viennent, qui sont des passionnés.
Alors vous qui connaissez bien le public de Gabin, qu'est-ce qu'ils viennent voir alors ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ?
Ils viennent chercher des souvenirs, ils viennent se mettre dans une ambiance.
Ça, c'est les personnes âgées qui viennent chercher des souvenirs.
Oui, on retrouve le Gabin d'avant-guerre, le Gabin jeune, puis le Gabin d'après-guerre.
Les gens vont chercher ça, l'image du vrai français ancré dans la terre.
Je crois que oui, oui. Et je crois que justement, les gens s'identifient un petit peu à ça. Puis je crois qu'il y a le regret aussi de ne plus voir ça. C'est vrai que les gens trouvent en Gabin un personnage qui était un peu un personnage véridique, qui présentait des choses véridiques.
Il y a la figure du patriarche, visiblement aussi, qui les séduit.
Ah
il y a, un sondage qui dit que, je sais plus, enfin, il y avait une dizaine d'années qui disait que je crois que la moitié des Français auraient aimé avoir Gabin comme grand-père.
Dans La Horse, à la fin du film, c'est vrai qu'il représente un peu le pater familias, dirons-nous, cette famille qui est unie, soudée et avec lesquelles, bon, on a envie de vivre. Surtout à notre époque actuelle, je crois qu'on voudrait retrouver un peu cette façon de vivre. Et puis vous retrouvez ça chez certaines jeunes filles qui sont amoureuses de Gabin.
Amoureuses ?
Oui, amoureuses de Gabin.
Et elles vous le disent ?
Oui, des fois, j'ai reçu des lettres de jeunes qui, bon, elles auraient aimé l'avoir, ou même comme père.
Oh merde ! Bah nous, c'était même pas de peau. Ce qui est pas de peau, c'est d'être tombé sur un mec comme toi. Tu avais marché au poil. Pendant que les perdreaux faisaient la planque dans les gares et sur les aérodromes, nous, on restait ici pendant une semaine peinard, en attendant que ça se passe. Il a fallu que tu casses la cabane.
Mais enfin quoi, c'est pas un drame cette photo.
Et Trav à perpète non plus, c'est pas un drame. Dans la vie, il n'y a pas de drame, il n'y a que des fatalités.
Pour moi, il me semble que il y a une grande continuité entre le Gabin avant-guerre et le Gabin après-guerre, que sa dimension populaire continue d'exister en parallèle avec les rôles qu'on lui fait jouer, des rôles de personnages bourgeois ou bien de grands criminels. Cette continuité dans son identité populaire, elle vient d'une part de la mémoire. Et c'est là où Gabin est un lieu de mémoire, c'est-à-dire que les spectateurs qui l'ont vu dans les années 50 étaient... dans l'ensemble des spectateurs qu'il avait connus dans les années 30. Et même s'ils n'en avaient pas fait l'expérience eux-mêmes, la popularité de Gabin, l'image qu'il avait développée dans le cinéma des années 30 était suffisamment puissante pour continuer dans la mémoire des spectateurs, que ce soit leur mémoire individuelle ou bien la mémoire collective. Disons, l'histoire du cinéma avait quand même conservé cette idée de Gabin, héros, rebelle, populaire, l'ouvrier des années 30. Donc, la mémoire fonctionne à ce niveau-là. Deuxièmement, je crois que dans son jeu d'acteur, dans ses gestes, sa façon d'utiliser son corps, sa façon d'utiliser sa voix, son accent, Gabin a toujours conservé des connotations populaires. Cette identité lui colle à la peau, en quelque sorte. Il me semble que pour les spectateurs des années 50, 60, 70, et maintenant, à plus forte raison, qui voyaient ces personnages, on peut dire que Gabin jouait sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'il donnait à la fois à voir le succès social, il est monté dans l'échelle sociale de ce personnage, c'est un peu le personnage populaire qui a réussi, et en même temps il garde cette mémoire d'une identité de sa jeunesse, une identité d'ouvrier rebelle, de prolétaire des années 30.
Mais alors, Ginette Vincendo, s'il y a une continuité du personnage Gabin, qu'est-ce qui fonde vraiment ce personnage? Qu'est-ce qui est constant, toujours identifiable dans la mémoire du public?
Ce qui fonde la base de son identité dans le récit des films, c'est toujours un sentiment qu'il appartient à des valeurs profondes, souvent des valeurs qui sont vues comme artisanales, c'est-à-dire que c'est l'ouvrier qui aime le travail bien fait. C'est un petit peu la noblesse de l'ouvrier de l'époque, bon, qu'il soit conducteur de locomotive comme dans La Bête humaine, ou bien dans Pépé le Moko, où il est vraiment criminel. On nous dit un petit peu en passant qu'il a été, il a fait de la menuiserie, qu'il aime bien le travail bien fait. Donc on a un sentiment de valeur profonde, un amour pour la terre, un amour pour certaines valeurs morales, en fait, assez conservatrices finalement. Et que dans les années 50, 60 et 70, ces valeurs se retrouvent. Elles continuent en quelque sorte de fonder son personnage sur le plan de son identité dans le récit. Donc, qu'il soit chef d'un groupe de gangsters, ou bien qu'il soit président du conseil, ou bien qu'il soit banquier, ou qu'il soit avocat, le film nous dit toujours qu'il est resté attaché à certaines valeurs fondamentales. Le populisme des années 30, à cet égard, continue d'exister dans ces personnages d'après-guerre. Pour certains, je sais qu'on a vu ceci comme en fait une forme de poujadisme, qui est une autre façon de l'exprimer, un peu plus dénigrante en quelque sorte. Mais pour moi, c'est un des aspects fondamentaux du mythe de Gabin, et qui rejoint cette idée d'authenticité aussi, que c'est quelqu'un de vrai, parce qu'il est attaché à des valeurs fondamentales qui se trouvent être des valeurs qui ont cours dans la culture française, en particulier l'attachement aux racines, l'idée de racines, de communauté, est quelque chose qui est très fort, je crois, dans tous les personnages qu'il joue. Donc, leur identité professionnelle finit par apparaître comme un petit peu superficielle, ou en tout cas quelque chose qui recouvre une identité morale. Ce sont des valeurs qui réconcilient les divisions entre classes sociales, par exemple, qui réconcilient des groupes qui peuvent normalement se trouver opposés. Et un acteur qui atteint, enfin une star plutôt, qui atteint le statut de mythe, doit avoir cette faculté de réconciliation.
Une star est à la fois le produit de son public et le reflet de son public. Et c'est vrai que si Gabin a tellement plu, disons, à ses contemporains, aux gens qui avaient son âge ou qui ont eu son âge, c'est effectivement qu'il se retrouvait parfaitement en lui. Et effectivement, il se retrouvait les uns et les autres. C'est-à-dire que on peut considérer que certains de ces personnages sont, par exemple, pour caricaturer ou simplifier, d'odieux profiteurs, d'odieux capitaliste, d'odieux banquier, etc. On peut aussi estimer par une autre lecture que ce sont des gens qui ont réussi à s'en sortir, qui ont une ascension sociale lente, mais qui, après tout, l'ascension sociale existe également, et que ces gens-là ont le mérite d'être sortis du rang et d'être arrivés.
pour l'étranger, c'est l'acteur le plus français qui soit. Je me souviens d'une émission où, bien après sa mort, où de terre, on avait interviewé directement des gars dans le Spoutnik, là-haut, dans la stratosphère, et des Russes, et qui avaient, on leur avait demandé quel était pour eux le personnage français le plus célèbre. Tout le monde pouvait s'attendre à ce qu'ils disent De Gaulle, etc. Ils avaient répondu Gabin. Et ils avaient dit, ben, quelle est brume, etc. Les misérables.
Je crois que la mémoire cinématographique française s'incarne de façon exemplaire dans un acteur comme Gabin, puisqu'il est à la fois le cinéma d'auteur d'une époque glorieuse, c'est-à-dire les années 30, le réalisme poétique, et le cinéma populaire qui a continué à se faire, a continué à trouver un public. Et son public lui est resté fidèle le long de sa carrière. Donc je crois que c'est un lieu de mémoire, non seulement au point de vue des personnages qu'il joue, qui représentent des types de héros français, mais aussi un lieu de mémoire sur le type de cinéma qu'il représente.
Vous, aujourd'hui, Claude Gotter, quel est le film de Gabin que vous préférez, l'image de Gabin que vous préférez, peut-être la scène, le geste, qui serait votre souvenir préféré de Gabin?
Ah, il y en a pas un, il y en a trop, il y en a vraiment beaucoup trop. Mais non, je suis incapable de répondre. Non, parce qu'il y en a vraiment trop. Non, c'est pas non coupez-le parce que je veux dire ou alors il faudrait que j'en non coupez-le vous là. Vous me posez la question, des images affluent là, donc il faudrait que je vous en donne 10, mais donc c'est pas vous en avez une, non, j'en donne 10 ou j'en donne pas.
Dis donc,
pauvre pétasse qui comprenait rien à rien, qui bat plus. Alors bouge plus, bon Dieu. On dirait un rat. T'entends? Alors bouge plus, bon Dieu.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais il s'est rien passé. J'ai changé, puis c'est tout.
Parce que...
Qu'est-ce que tu fais des morues?
Comme les affaires, elles produisent pas d'office. Mais non, je ne pense pas.
Pour une pétasse qui comprenait rien à rien,
qui m'a fait. J'en ai vu ça donner 5 000. La caisse est fermée. Allez hop, démerdez-vous.
T'as de bons yeux, tu sais.
Il était un petit navire.
C'était Lieu de mémoire, Jean Gabin.
C'était une belle idée. C'était une belle idée. Une belle idée qu'on avait eue. C'était trop beau pour réussir. Quand c'est fini, c'est fini. C'était une belle idée.
Avec André Brunelin, auteur de la biographie de Gabin aux éditions Ramsay Poche Cinéma, Ginette Vincendeau et Claude Gotter ont co-signé Jean Gabin, Anatomie d'un mythe aux éditions Nathan. Avec Marie-Paul Vallon, conservateur du musée Jean Gabin à Mériel. Prise de son, Jean-Marie Porchet. Mixage, Michel Kreis, Isabelle Eckert. Archivina, Rosanne Lelièvre. Une émission de Stéphane Bou, réalisée par Mireille Cros.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 mai 1997. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.